Nous sommes mardi 1er septembre 2019. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la présentation de Fils Adam Sirfo. Au sommaire de cette édition, les élèves du primaire et du collège du Niger ont effectué leur rentrée scolaire ce matin. Dans ce journal, nous irons dans les régions d'Agadez, Maradi et Niamey pour voir les conditions dans lesquelles elle s'est effectuée. La chaleur ambiante observée de jour comme de nuit à Niamey ces derniers temps préoccupe plus d'un. Le directeur de la météorologie nationale donne des explications. En partie magazine Femmes et Bien-être, la rubrique de chaque mardi parle aujourd'hui de l'allaitement et des grossesses rapprochées. Aujourd'hui, 1er octobre 2019, les élèves des collèges et primaires du Niger reprennent le chemin de l'école. À l'école Yentala 2 de Niamey, qui accueille chaque année 400 élèves, les cours ont déjà débuté. Madame Amadou Zainabou, directrice de l'école, explique au micro de Rukayatou Abdrahman.
Comme vous le voyez, donc les élèves sont là, les enseignants sont là. En tout cas, tout est à jour, donc tout le monde est sur place. Toutes les conditions sont réunies parce que nous avons les fournitures qui sont déjà disponibles, nous avons déjà distribué aux élèves. Donc ils ont leur kit avec eux. Bon, ce sont des kits composés de cahiers, ensembles géométriques, règles, crayons de couleur, etc. Chaque année, on n'a que 400 élèves. La majorité est là, sinon on a remarqué quelques absences seulement. Les cours ont déjà démarré aujourd'hui, 1er octobre. Les cours ont commencé déjà à 8h. Donc ici, vous voyez, les élèves sont en classe, ils sont en train de suivre les cours.
À Agadez, dans certaines écoles primaires de la commune, la rentrée scolaire ne sera pas effectuée ce mardi 1er octobre 2019. Les écoles Misarata 1, 2, 3 et 4 ainsi que plusieurs autres ont des classes non opérationnelles car endommagées par les dernières précipitations. Moutari Abarchi, directeur régional de l'enseignement primaire d'Agadez, lance un cri d'alarme au micro de Moussa Maman.
Nous avons passé dans l'école qui a enregistré le plus grand nombre de dégâts, notamment les écoles Misarata. Il y a en fait une vingtaine de classes qui sont absolument inopérationnelles. 20 classes dans un ensemble de 4 écoles, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de promotions qui ne pourraient pas effectivement faire leur rentrée de façon normale. Nous avons lancé un cri d'alarme au niveau de tous les barres de fonds pour qu'ils puissent nous venir en aide et redresser ce qui peut le faire juste pour permettre la rentrée en attendant de savoir mieux. Mais comme vous le savez, si c'est des classes à construire, nous, ça ne nous permet pas effectivement de résoudre le problème immédiat de la rentrée. Donc, le problème, il est là. Il faut savoir comment il faut faire la rentrée au niveau de ces écoles-là. Dans un cas comme dans l'autre, les quelques classes de fortune en banco ou en paillote qui sont écroulées, il va falloir nécessairement les redresser pour permettre la rentrée des classes. Sans doute, ça ne sera pas fait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la semaine, la rentrée, même au niveau de l'école qui a reçu le plus grand nombre de dégâts, elle sera effectivement effective.
Rentrée scolaire toujours à Gabi, région de Maradi, elle intervient dans un contexte d'insécurité, ce qui ne favorise pas la sérénité dans les écoles frontalières avec le Nigeria. Pour le secrétaire général du syndicat des enseignants contractuels Sineco, section de Gabi, certains enseignants n'ont toujours pas regagné leur poste par peur d'attaque. Nassirou Jinkile au micro de Mohamed Maman.
Pour ceux qui sont de la commune de Gabi, la situation d'insécurité, une situation très critique qui nous gêne et qui nous touche à cœur parce qu'il y a beaucoup de villages, notamment le village de la bande sud qui sont en frontière avec le Nigeria. Vraiment, ces villages-là rencontrent des problèmes d'insécurité et des bandits armés venant du Nigeria. C'est ce qui fait en sorte que même à l'heure actuelle, beaucoup de gens de ces genres de villages sont menacés par cette situation d'insécurité. Et jusque-là, il y a certains de nos enseignants qui n'ont pas repris. Et je pense que les enseignants de ces genres de villages, ils ne sont pas au village. Il y a des villages où on trouve 30% des élèves et il y a des villages où il n'y a même pas de parents d'élèves à plus forte raison, leurs enfants.
Depuis une quinzaine de jours, les habitants de Niamey se plaignent de la chaleur ambiante de jour comme de nuit. Cette sensation de chaleur est due à la présence de la mousson, explique le directeur de la météorologie nationale, Kachalou Lawangapcha.
On a eu un arrêt pratiquement de pluie vers la fin de la dernière décade de septembre. Et donc, c'est tout à fait normal, effectivement, que nous ayons cette sensation de chaleur. Surtout pour les régions de Niamey, Tillabéri, où encore la mousson est là. Parce que plus l'air est chargé d'humidité, plus stressant. Et donc, voilà ce qui explique pourquoi nous avons cette sensation de chaleur. Il y avait eu, vers la fin du mois de septembre, une descente du front tropical vers le sud, carrément. C'était pratiquement à la latitude d'Etawa et pratiquement sur Zender. Donc, à partir d'hier déjà, le front tropical est réparti un peu au nord, pratiquement aux latitudes d'Agadez, et donc avec une bonne pénétration encore de la mousson sur notre pays. Et d'ailleurs, il a été enregistré entre donc hier et aujourd'hui des activités pluvio-orageuses à Tawa, à Maradi, Pony, à Dosso. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes à la fin de la saison. Toute la décade là, il y aura des activités pluvio-orageuses encore, surtout sur les bandes sud de notre pays, de l'est jusqu'à l'ouest, mais plus, beaucoup plus au sud-ouest, où nous attendons quand même des activités orageuses qui peuvent être accompagnées vraiment des précipitations.
En bref, à Ouagadougou, les journalistes africains participant à la 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP ont condamné vendredi le durcissement des législations nationales sur la liberté d'expression et de la presse au nom de la lutte contre le terrorisme. Vu que l'accès des populations à l'information saine est un droit inaliénable qui participe à l'éducation citoyenne indispensable dans la lutte contre le terrorisme, ces journalistes appellent les gouvernements des pays en lutte contre le terrorisme à abroger les textes liberticides et les invite au strict respect de la liberté de la presse. L'ambassadrice de l'Union européenne était dans la région d'Agadez du 25 au 27 septembre 2019. Pendant 3 jours, elle a visité certaines réalisations financées par son institution dans la région, dont la route à Agadez-Tigidit et l'hôpital de Bulma. Ionette Denissa et Lina fait un constat.
Les constats nous donnent beaucoup de satisfaction. On voit par exemple comment la route Agadez-Tigidit fait une différence pour le déplacement, pour la connectivité, pour le commerce. Nous avons vu également l'hôpital de Bulma, dont la construction est prête, et qui, surtout quand vous voyez tout le contexte géographique, c'est vraiment quelque chose de très significatif de pouvoir réaliser une telle construction dans ces conditions géographiques avec éloignement. Donc, ce sont des réalisations très importantes. Le projet sur la plateforme de formation et d'insertion des jeunes. C'est aussi très important puisqu'il permet de connecter les jeunes, leur donner des opportunités de se sentir. Je pense que sur base forte de ces constats et de tout le bilan de ce partenariat, nous sommes tout à fait en mesure de préparer aussi le futur de coopération, de partenariat qui va commencer en 2021.
Des propos recueillis par Moussa Maman. En bref, plus de 250 civils nigériens ont été tués et près de 240 autres enlevés dans des attaques terroristes dans les régions de Diffa au sud-est, à Tillabéri et Tawa à l'ouest, révèle un nouveau rapport des Nations Unies daté du 26 septembre. Ainsi, à Diffa, 173 attaques ont été enregistrées avec 202 civils tués, 60 blessés et 239 kidnappés. 70% des kidnappés sont des femmes et des enfants, souligne l'agence onusienne. Dans les régions de Tillabéri et Tawa, 79 attaques ont été répertoriées avec 42 tués, 19 blessés et 15 enlèvements, indique le rapport. L'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est le thème de la 8e édition du festival Fishgoni qui débute ce soir au centre franco-nigérien Jean Rouche de Niamey. Selon le promoteur, des ateliers d'écriture et de formation au slam ainsi que des colloques sont prévus dans le cadre de ce festival. Hamani Kassoum Dijonel nous explique au micro de Diallo Maria Makenda.
Il se déroule tous les ans la première semaine du mois d'octobre. Le festival donc a ses 3 points qui est le slam, donc tout ce qui est concert et tout ça. Et il y a une partie aussi des ateliers d'écriture et des formations au slam et à l'humour. Et aussi la partie colloque où on invite des maîtres conférenciers pour parler donc des questions qui minent la société. Il y a 2 ans, on a travaillé sur le développement et cette année on travaille sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors il est important ce thème pour nous parce que déjà on anime des ateliers d'écriture avec des personnes en situation de handicap, donc chaque mois en quartier. Et donc, dans chaque quartier, on prend 10 personnes qu'on initie à l'écriture et à la parole aussi.
Du sport dans ce journal, au 17e championnat mondial d'athlétisme qui se tient jusqu'au 6 octobre au Qatar, la Nigérienne Amina Seni était hier la première sur le podium avec un chrono de 22 minutes 58 secondes en se qualifiant ainsi pour les demi-finales du 200 mètres dames. A noter que le Niger est représenté par deux ambassadeurs à ce championnat du monde au Qatar, Amina Seni pour les 200 mètres et 400 mètres dames et Moussa Zaroumé pour les 400 mètres hommes.
Studio Kalangu
à Gaya
sur la radio Fara
90.3 MHz. À Tessawa
sur la radio Termamoa
97.5 MHz. À Brinconi
sur la radio Nia
97.5 MHz. À Beleyara
sur la radio Dalol
96 MHz.
Studio Kalangu.
La partie magazine de cette édition, au Niger, environ 320 000 naissances ont été enregistrées en 2016 selon l'annuaire des statistiques sanitaires avec un indice de fécondité de 7,6 enfants relevé par l'Institut national d'études démographiques. Le rapprochement des grossesses constatées au Niger n'a pas d'impact significatif sur l'alimentation du bébé allaitant, explique Dr Halima Diallo, médecin gynécologue à la retraite et ancienne directrice du Centre national de la santé et de la reproduction à Niamey, interrogée par Rahila de Soumana.
Une femme qui vient d'accoucher peut-elle contracter une autre grossesse avant la quarantaine?
Il y a des femmes qui, aussitôt elles accouchent, 3 semaines après, elles tombent enceintes.
Avant les 30 jours quarantaine que nous disons, tout dépend de la physiologie de la femme.
C'est là qu'on parle de grossesse rapprochée.
Bon, par rapport au bébé, il vient évidemment, si cette grossesse se développe, là, on dira que c'est une grossesse rapprochée parce que l'autre n'a pas pu allaiter comme il veut.
Quelles conséquences sur le bébé?
Bon, quand on dit conséquences, on voit toujours le côté négatif. Mais si la femme, elle allaite et qu'elle tombe enceinte, elle continue à allaiter. L'allaitement en lui-même n'empêche pas à l'autre bébé de se développer.
Est-ce que toutes les femmes peuvent continuer à allaiter quand elles tombent enceintes?
C'est les conditions de vie de la femme. Est-ce qu'elle est dans des bonnes conditions d'alimentation où elle mange bien, elle a tous les produits nutritifs qu'il faut, eh bien, l'autre va se développer aussi puisque après 6 mois, après 1 an, l'autre commence déjà à manger. Celui-là aussi va aller à terme sans problème. Mais si la mère n'est pas dans des bonnes conditions comme ce que nous voyons en brousse, elles sont faibles, amaigries, les seins tombés, elles mangent à peine une fois dans la journée, c'est pas recommandé. Mais ceci ne veut pas dire qu'on va faire un avortement à la femme. Non, non, non.
Que faut-il faire quand cela arrive?
On doit suivre maintenant la femme. C'est le rôle de la sage-femme et du gynécologue de suivre cette grossesse-là.
Et pourtant, on voit ici systématiquement, quand la femme tombe enceinte, on dit « Ah, il faut sevrer l'enfant ». Donc, ce sont des préjugés.
Oui, oui. On ne dit jamais de sevrer l'enfant. Parce que c'est le sevrage-là qui va amener tous les problèmes à l'enfant.
Quels sont les problèmes qui pourraient advenir?
Souvent, l'enfant finit par périr. Tant que l'enfant tête le lait de sa mère, d'abord sur le plan immunitaire. Tous les systèmes immunitaires de la mère, en général, passent par le lait maternel et augmentent, si vous voulez, permet de développer le système immunitaire du bébé. Mais dès qu'on le sèvre, le bébé n'a plus rien. Non seulement il n'a pas l'alimentation qu'il doit avoir, parce que dans le lait maternel, il y a tout. J'ai dit, si la femme est dans des bonnes conditions nutritives, je crois que ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc, c'est le contraire, c'est le sevrage qui peut rendre cet enfant vulnérable et puis même l'autre.
Ici prend fin ce journal. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Pour le rendez-vous Espace Femmes de ce soir, Diallo Maria Makenda et ses invités nous parlent des femmes et conflits, victimes et actrices de paix. Bonne écoute.
Studio Kalangu
à Gaya
sur la radio Fara
90.3 MHz. À Tessawa
sur la radio Termamoa
97.5 MHz. À Brinconi
sur la radio Nia
97.5 MHz. À Beleyara
sur la radio Dalol
96 MHz.
Studio Kalangou.